Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et on débrief l'actu tech chaque soir, vous le savez, 20h, 21h avec nos experts qui sont là. Clément David est avec nous, salut Clément.
Salut.
Président de Paddock et on va le dire, un spécialiste du cloud.
J'espère.
T'as vu, aujourd'hui je suis plutôt light.
C'est vrai, et joyeuse Pâques.
C'est vrai, joyeuse Pâques, en effet. À tes côtés, c'est Yves Maître qui est là. Salut Yves.
Bonsoir.
Operating partner Jol Capital et consultant, ancien PDG de HTC et Frédéric Simotel.
Bonsoir. Salut Fred. Bonsoir à tous, c'est François.
Qui est en train de vider l'open space de tous les chocolats qui traînent.
Non.
Pas tout à fait.
Non, pas tout à fait.
Mais bon, tu te rattrapes puisque tu...
Je reprends le sucre vendredi.
C'est ça. Et puis, il se prépare pour le marathon la semaine prochaine. Donc, tout va bien. Il élimine. L'actualité, elle est chargée quand même. Vous l'avez vu en ce début de semaine avec Microsoft et OpenAI qui travaillent sur un projet de data center à plus de 100 milliards de dollars. Amazon, excusez-nous, on est vraiment dans les milliards là. Amazon qui va investir 150 milliards de dollars dans ses data centers sur 15 ans. Cette IRM aussi, la plus puissante au monde, elle est française. Elle est conçue par le CEA et elle permet d'avoir une imagerie du cerveau incroyable. On arrive en fait à zoomer, à avoir des détails des détails à quelques milliers de neurones, ce qui est complètement inédit et qui, évidemment, vous l'imaginez, va pouvoir sans doute accélérer la manière dont on va pouvoir soigner certains patients.
Les diagnostics. Et puis
les diagnostics, parce qu'on parle du cerveau, mais évidemment, d'autres organes pourront être comme ça, scanné par cette technologie. Mais pour débuter, je le disais, la mauvaise passe de Tesla. Le constructeur californien a dévoilé aujourd'hui ses chiffres de vente pour le premier trimestre. Les livraisons ont chuté de presque 9% en quelques semaines. Et Tesla subit de plein fouet la concurrence chinoise et la guerre des prix. Justine Vassogne nous raconte tout ça et on revient juste après.
Un cauchemar. C'est ainsi que le fonds Wedbush qualifie le premier trimestre de Tesla. Tous les analystes ont revu leurs prévisions à la baisse. Certains estiment que Tesla pourrait livrer jusqu'à 50 000 voitures de moins qu'attendu et vendre moins de véhicules qu'au premier trimestre de l'année dernière. Un recul qui serait du jamais vu depuis le Covid. De des usines du constructeur en Californie et à Berlin connaissent des perturbations, mais le principal problème est ailleurs. Tesla souffre sur ses deux principaux marchés, les États-Unis et surtout la Chine. Malgré des baisses de prix récurrentes, le constructeur ne cesse d'y perdre du terrain, malmené notamment par BYD. Elon Musk est conscient du danger. Il a récemment estimé que les constructeurs chinois étaient les plus compétitifs du monde. Il faudra attendre 2025, a-t-il prévenu, et l'arrivée d'une voiture à 25 000 euros pour une nouvelle vague de croissance. Pas certain que les investisseurs aient cette patience. Depuis le début de l'année, Tesla a perdu 30% en bourse. C'est la pire performance du S&P 500.
Alors voilà, est-ce que c'est la fin du règne de Tesla? En tous les cas, ces dernières semaines ont été compliquées. Les livraisons donc ont baissé de 42% en France en mars sur un an. Ça, c'est sur le marché automobile global des véhicules électriques. Bien sûr, on le voit, Tesla qui a rencontré pas mal de problèmes, notamment avec son usine à Berlin, en tout cas dans la région berlinoise, qui a été victime d'activistes qui ont vandalisé en fait les infrastructures, ce qui fait que l'usine a été à l'arrêt pendant plusieurs jours c'est compliqué. C'est un passage à vide, Yves, à ton avis, ou est-ce que entre l'arrivée des Chinois qui font des voitures de plus en plus intéressantes et de moins en moins chères, le marché est en train de changer?
Non, je pense que c'est pas qu'un passage à vide. Alors il y a des raisons objectives. Tu citais Berlin. Il y a aussi l'histoire de la mer Rouge qui oblige à faire des détours en bateau et donc ça crée des retards. Cela étant, je pense que ce qui est en train de se passer sur le marché de l'automobile était prévu, mais va beaucoup plus vite que ça. Parce que si on met les non-ventes, on va dire, ou le manque de ventes de Tesla, il faut aussi regarder ce qui se passe ailleurs. Il y a Xiaomi qui a annoncé une voiture qui est considérée un petit peu comme la nouvelle Porsche chinoise au tiers du prix. Il y a BYD qui annonce la semaine dernière une voiture qui dévoile une voiture à 10 000 euros, une voiture électrique à 10 000 euros, alors que nous, en France, on est à 20 000. Il y a Huawei qui est en train de cartonner.
20 000 était gentil, 20 000. 20 000,
c'est l'objectif.
Le volant est en option.
Non,
j'exagère, mais c'est vrai que
c'est pas très gentil de dire
ça. C'est plutôt 25, hein. Tu prends même la nouvelle R5.
Non, mais il y a un objectif, qu'importe, il y a un objectif à 20 000 et il y a un travail incroyable pour passer de quelque chose, 20, 25, 20, 26, à 20 000 et à un autre endroit sur cette planète, ils sont à 10 000. Ouais. Donc il y a tout d'un coup quelque chose qui était prévu, qui était anticipé, mais qui arrive comme une espèce de tsunami, comme une vague. Alors les gens ajustent les prix, mais ça suffit plus. Hein. On voit Tesla en Chine a dû baisser ses prix, mais ça suffit plus. Et oui, il y a un phénomène qui est en train de se passer. Il y a un changement énorme qui est en train de se passer et qui arrive aussi en Europe hein, avec les annonces qui disent qu'en 2024, si j'ai bien lu les annonces, 25% des voitures seraient construites en Chine. Ça ne veut pas dire que ce sont des voitures chinoises, hein, puisque
les Volvo, Dacia,
DS sont construites en Chine, mais 25% des voitures vendues en Europe, seraient fabriquées en Chine en 2024.
Clément, et après on donnera la parole à Fred, ouais. Bien sûr.
Écoute, nous on a plusieurs clients Paddock dans l'automobile français.
C'est compliqué.
Ça va être compliqué. C'est-à-dire que, déjà, c'est un marché, c'est de l'industrie. C'est un marché qui est un marché très tendu, qui est mature, etc. Tu parlais de tsunami, la vague qui a déjà bien commencé, hein, des voitures chinoises en Europe. Parce qu'il y a des trucs, il y a des idées qu'il faut déconstruire sur la Chine. C'est-à-dire que les gens pensent que la Chine n'a pas une culture de la voiture. C'est pas parce qu'on ne connaît pas les marques chinoises qu'ils en ont pas. C'est-à-dire que Volvo, ça a été déjà racheté en 2010, MG, ça a été racheté en 2005.
Ils ont racheté Jaguar, je crois.
Non, c'est Tata, je crois qu'il y a.
MG.
Et ils font
MG, des Volvo, Polestar.
Donc le premier truc, c'est ils ont une vraie culture de la voiture. Et puis nous, on se rend pas compte, il y a 100 villes en Chine qui ont plus d'habitants que l'Irlande. Dire donc t'as quasiment 100 villes qui ont leur propre compagnie de voitures. Donc, le premier truc, ils ont une énorme culture de la voiture.
Ces gens-là ont besoin de se déplacer.
Exactement.
Forcément.
Deuxième truc, ils font des très très bonnes voitures. Ce qui fait paniquer en Europe, quand tu parles aux constructeurs européens, c'est pas le fait que des voitures chinoises arrivent, des trucs pas chers qui arrivent. Tous les marchés se sont fait disrupter par des trucs pas chers qui venaient de Chine. C'est que la qualité de ces voitures est hallucinante. Quand tu prends une marque comme NIO, par exemple, parce qu'on parle de BYD, parce que c'est le mastodonte, NIO, c'est du très haut de gamme. C'est des très très belles voitures. Donc en fait, ils font des voitures qui sont largement aussi bien que les voitures européennes, pour 25% moins. Ça, c'est très compliqué. Mais c'est des bonnes bagnoles. Et le troisième truc, c'est qu'en fait, on se pense qu'ils font comme nous, ils font pas comme nous. Ils ont des avantages technologiques, type les batteries, où ils sont meilleurs que nous. C'est-à-dire que BYD, par exemple, c'est aussi le numéro un mondial des batteries. Ils font ça pour les panneaux solaires, ils font ça pour les smartphones, ils font ça pour... Donc en fait, ils ont
aussi...
Alors
qu'avant, c'était les Japonais qui étaient les numéros un des batteries, et même les Coréens, avec LG.
Et en fait, on en parle souvent du fait qu'on parle moins du Japon dans cette émission, etc. Mais je veux dire, la Chine a des vrais atouts. Et quand on dit qu'il va y avoir une déferlante du marché chinois, c'est pas juste les Chinois vont nous envoyer plein de voitures de merde. C'est les Chinois nous envoient beaucoup, parce qu'en plus, c'est sur un marché intérieur où ils l'ont fait à scale, ils savent en produire beaucoup, beaucoup d'excellentes voitures pas chères. Et pour Tesla, il y avait un peu les constructeurs historiques avec les gens qui étaient fidèles à ces marques-là, les marques nationales, et Tesla tout seul pour le reste du monde. Ben maintenant, c'est Tesla plus BYD et tous les autres Chinois, VS les marques historiques. Pour Tesla, pour répondre à la question, c'est pas le même jeu.
Parce que c'est vrai que Tesla bénéficie d'une aura, Fred, qui est incroyable. C'est un peu le Apple de l'automobile. Hein. C'est cool d'avoir une Tesla. Ils ont encore ça.
Je pense que là aussi, on est en train de, par rapport à toutes les étapes là, que l'on vient dont on vient de parler, je pense qu'il y en a une autre aussi, c'est que Tesla commence à pas rentrer dans le rang parce que c'est quand même une voiture différente, mais les gens qui sont habitués à un autre style de voiture, maintenant qu'on commence à avoir des BMW, des Audi, des Mercedes plutôt de bonne qualité, qui commencent à avoir de l'autonomie, qui commencent à avoir aussi une interface plutôt pas mal, bien les gens qui sont habitués à Mercedes, à Audi, à BMW, eh bien ils vont retourner chez BMW, Audi et Mercedes parce que là aussi ils aiment bien ces voitures, ils aiment bien le style. Enfin voilà, ils ont été élevés
malgré tout des voitures un peu mieux finies que les Tesla.
Un peu mieux finies que les Tesla. Et donc là, je pense qu'il y a aussi ce côté-là. Et pour moi, il faut que Tesla, soit ils trouvent leur modèle façon ce que tu dis toujours le modèle Zoé, hein, le modèle leur Golf, leur 205, voilà leur modèle un peu vache à lait qui va faire tourner et qui rapportera beaucoup d'argent. Soit ça risque d'être un peu compliqué parce que la concurrence chinoise, mais la concurrence, moi je dis que la concurrence européenne dans le haut de gamme, hein, quand ils ciblaient le haut de gamme, où ils faisaient pas mal de marge, il faut le rappeler, ils sont en train de se faire tailler aussi quelques croupières. Donc il y a tout ça qui est en train de changer. Donc voilà, après, ils ont des autres soucis de production. Et puis, je pense qu'il faut aussi qu'en Europe, on commence un peu à fermer. Alors, ça pourra bénéficier aux Tesla fabriqués en Allemagne, mais à revoir un peu nos droits de douane. Il faudra qu'on revoie un peu aussi, on pousse un peu nos constructeurs français, enfin français, européens, à construire un peu plus, à se lancer plus rapidement dans l'électrique. Mais voilà, je pense que la grandeur de Tesla, la grande, plus loin, heure de Tesla est peut-être en train de... Oui, est passée. Pour moi, elle est passée.
Yves, parce que c'est vrai, est-ce que la question que je me pose, mais comme tu connais bien le marché chinois, taïwanais, etc., est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas plus facile de fabriquer une voiture qu'il y a 10 ans? On se rend compte que aujourd'hui il y a énormément d'acteurs qui sortent des voitures dont c'était pas le métier, dont au départ leur métier c'est l'électronique. Huawei par exemple, je crois que Samsung a aussi sorti une voiture. On voit que Sony est en train de s'associer à Honda pour sortir une voiture. Est-ce que finalement en Chine les voitures c'est pas un peu comme les smartphones? On peut acheter des modèles un petit peu sur étagère que tu vas un peu customiser à ta manière en rajoutant ton OS, en rajoutant peut-être ta batterie, etc. Mais est-ce que c'est pas plus facile de fabriquer une voiture aujourd'hui qu'il y a peut-être 10 ans? Alors,
c'est pas plus facile, mais c'est totalement différent. Il y a quelques années encore, quand on fabriquait une voiture, il y avait beaucoup de pièces mécaniques. Donc, il y avait une chaîne de valeur avec beaucoup de sous-traitants. C'était absolument très hiérarchisé, très pyramidal, avec toute une structure, des usines énormes et des temps de cycle, c'est-à-dire entre une voiture et une autre voiture, ça prenait plusieurs années pour faire un modèle. Parce qu'il y avait beaucoup de pièces. C'est comme un Lego avec beaucoup de pièces. Bon. Là maintenant, la voiture électrique, il y a beaucoup moins de pièces. Il n'y a plus d'huile, il n'y a plus beaucoup de liquide de refroidissement, plus de liquide de refroidissement.
Il y a plus de carburateur. Enfin, il y a plus tout ce qui était complexe en moteur thermique.
Il y a plus d'embrayage, il y a plus de toutes ces choses-là. Ok, donc la partie mécanique est extrêmement simplifiée. Par contre, il y a toute une partie d'électronique, électronique de puissance et de software qui, elle, est extrêmement compliqué. Mais quand je dis extrêmement compliqué, c'est que faire l'intégration software sur hardware, avec le hardware, sur un smartphone, c'est déjà compliqué. Dans une voiture, c'est encore une autre échelle. Donc là, il y a un travail d'intégration entre la partie de la programmation et la partie du chipset et des composants qui est juste... jamais faite. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui n'a jamais été fait à ce niveau-là.
Ce que fait parfaitement Tesla et ce qu'a révolutionné Tesla aussi.
C'est là où vraiment Tesla est fort et c'est là où des grosses entreprises comme tu mentionnais Huawei, on peut mentionner Xiaomi, qui ont cette compétence-là, qui savent et faire des chipsets et faire du software, qui ont montré ces capacités.
Finalement, le mécanique, c'est pas le plus compliqué, quoi.
Non. Voilà, et la valeur n'est plus là. La valeur n'est plus dans la mécanique. C'est-à-dire que la valeur, ça va être dans le software, ça va être dans la maintenance, ça va être dans ce qu'on appelle les software upgrades, quand il faut avoir le dernier software qui est en marche.
Vendre le modèle auquel tu vas vendre, un abonnement, etc.
Absolument. Dans la connectivité, dans tout ce qu'il y a à l'extérieur, c'est-à-dire tout le cloud, parce que la voiture communique très régulièrement avec son cloud, qui lui donne un certain nombre d'informations, les relations entre les voitures, puisqu'elles se parlent ensemble, donc toutes ces choses-là deviennent absolument essentielles et créent la valeur des voitures modernes beaucoup plus que la mécanique. Donc, oui, c'est compliqué, c'est encore plus compliqué, mais c'est pas du tout le même type de complexité. À la place d'être une complexité mécanique, c'est une complexité software et surtout ce qu'on appelle software-hardware intégration.
Clément, tu voulais réagir.
Oui, il y a un élément qu'on n'a pas cité qui est important en ce qui concerne l'Europe, qui est aussi la contrainte de 2035 du tout électrique. C'est-à-dire qu'on a une obligation à date. Si tu me demandes, je te dirais que ça va bouger. Mais en 2035...
Parce que ça commence à craquer un peu partout, notamment...
Oui, puis ça va être comme le DPE pour les apparts. Tu vois, ça arrive et on dit, finalement, pour les petites surfaces...
Vous
ne
pouvez pas nous
rajouter
5 ans.
Exactement.
Si
et en fait, on a une contrainte qui, en 2035, en France, en Europe, tu vends plus de voitures à essence. Bon, c'est là qu'on est un peu embêté, parce qu'on est pris entre deux obligations c'est très bien, on veut sauver la planète, on dit il faut électrifier, etc., etc. Donc l'Europe a besoin de faire rentrer énormément de véhicules électriques sur le marché pour que les gens puissent se fournir, et il n'y a pas que des millionnaires qui vont s'acheter des voitures électriques, c'est plus que les mecs qui peuvent s'acheter des Tesla, donc il va en falloir des pas chers. Merci la Chine, vous savez produire beaucoup de voitures pas chères. Problème, à côté de ça, t'as les fournisseurs français et européens en général qui disent ok, mais en même temps, vous êtes en train de dire que vous voulez remonter en France à 12% de l'industrialisation qui est française. Bah, c'est pas en nous envoyant des tonnes de voitures chinoises que vous allez nous aider. Donc là, l'Europe est un peu pris entre deux feux. C'est pas un hasard si Luca De Meo, le DG de Renault, a commencé à dire dans les journaux, je crois que c'était dans Figaro en février, il faut qu'on fasse des partenariats avec les Chinois, c'est intéressant de regarder, ils ont des bons ingénieurs. Bon, mais à un moment, c'est ce que tu disais il y a 5 minutes, Fred. il va falloir que l'Europe se pose et dise comment est-ce qu'on protège. Donc la France commence à dire on sort les voitures chinoises du bonus écologique, va y avoir un peu de protectionnisme à droite à gauche, mais on a un vrai choix stratégique parce qu'on est pris entre le marteau et l'enclume en Europe, ça va pas être facile de s'en sortir.
Je pense qu'on refera pas le monde, mais on a fait une très grosse bêtise en allant directement sur l'électrique. On aurait dû faire un objectif différent, en disant voilà, 2035, il faut qu'une voiture elle ait tout ça comme critère, qu'elle consomme ça, que son recyclage ce soit ça, que son empreinte carbone ce soit ça. Débrouillez-vous. Vous voulez continuer avec de l'alcool de betterave, allez-y avec l'alcool de betterave. Vous voulez y aller avec de l'électrique, allez-y avec l'électrique. Et là, on aurait pu avoir notre chance parce qu'on aurait pu essayer de tirer. On a des super bons chimistes, on a des super bons physiques. Bon voilà, l'histoire est faite. On a voulu.
Tu veux dire que cette réglementation européenne, on se tire une balle dans le pied finalement.
Mais je trouve que c'était une bêtise.
Ça facilite la concurrence.
On aurait mieux fait de dire. L'objectif, c'est ça. On doit réduire de l'empreinte carbone de ça. Et les voitures maintenant, quand elles roulent, elles doivent leur empreinte carbone, ça doit être ça. À partir du moment où on décide de construire, tout le cycle de construction, de logistique, de maintenant, c'est tout ça. Non, on a décidé d'aller tout de suite vers l'électrique. Je pense que c'est une bêtise. On aurait pu être beaucoup plus innovant dans plein de domaines. La deuxième chose, je pense que sur la Chine, je comprends pas qu'on s'interroge pas. Ces voitures font fabriquer en Chine. On s'est interrogé sur les smartphones et la data, mais la data, comment ça se fait qu'on s'interroge pas sur ces BYD qui arrivent en France avec tout ça est fait en Chine, les processeurs et la data là-dedans, elle va, enfin personne se dit.
Non Frédéric, moi je peux pas être d'accord avec ce que t'as dit sur deux choses. D'abord le protectionnisme et le fait que il fallait pas y aller. Si il y a des impératifs écologiques.
Oui, mais ça aurait été fait autrement que par l'électrique.
Les mesures ont été prises il y a longtemps. Les constructeurs européens ont sous-estimé les difficultés, ont sous-estimé le travail. Pour certains, ont traîné des pieds, alors qu'un certain nombre de concurrents, dont Tesla, sont partis.
Oui, mais en dedans l'électrique, ont pris des risques. On aurait pu parler des biocarburants, des choses comme ça.
On a payé très cher notre stratégie diesel depuis des dizaines d'années. Je crois que c'est ça le problème.
Je pense que nous avons fait des bêtises, mais ce n'est pas le régulateur qui a fait des bêtises. Le régulateur a fait son travail. Ce sont les industriels. Enfin, Tesla a pris des risques énormes quand il a monté toutes ces stations de recharge, etc.
Oui, mais on aurait dû donner un objectif.
Qui en Europe a pris ces risques-là?
On aurait dû donner un objectif en disant allez-y vers l'électrique, vers les biocarburants, vers évaluer toutes ces sortes de technologies et choisissez. Alors, certains ont pris le risque du biocarburant, d'autres le risque de l'électrique. Je trouve qu'aller comme ça, direct vers l'électrique, pour moi, c'était une erreur.
Voilà. Deuxième chose. En ce qui concerne les droits de douane, l'Europe n'est pas alignée. En effet, les Français, Luca Di Meo, etc., disent qu'il faut remettre des droits de douane. Okay, les Allemands, Mercedes, BMW, ils n'en veulent pas. Et puis, il ne faut pas oublier que beaucoup des Dacia, toutes les DS sont faites en Chine. Donc, si on met les droits de douane, la DS et les Dacia, elles vont aussi être chargées. Ça, c'est la deuxième chose sur laquelle il faut faire attention. L'Europe n'est pas unie sur cette histoire de droits de douane.
Comme sur beaucoup de sujets, d'ailleurs.
Troisième chose que tu parlais, c'est les datas. Les entreprises sont tenues de respecter la régulation sur la privacy, sur les datas privées, RGPD, etc., etc. Donc, toute entreprise chinoise, russe, japonaise, nord-coréenne, s'il fallait, okay, heureusement, ils en sont encore loin, quand ils viennent en Europe, sont obligés de respecter les lois. Ça veut dire qu'elles travaillent sur des clouds qui sont, entre autres, des clouds certifiés, etc., comme AWS, comme Azure, etc., etc. Donc, je pense qu'on a le droit...
Oui, tu as l'interrogation du respect de ces lois vis-à-vis des Chinois.
Mais pourquoi Huawei n'a pas fait ça avec ses téléphones?
Mais Huawei, attendez, quand Huawei... Alors moi, d'abord, je suis pas... Il faut leur demander à eux, il faut les inviter. Mais en 2019, je suis pas sûr que le DMA existait, puisqu'il vient d'être publié. Donc, voilà. Après, moi, je sais pas ce qu'ils ont fait avec leur téléphone ou pas. En tout cas, moi, quand j'étais chez Orange, j'ai jamais eu de remontée qui donnait, que ce soit Huawei ou d'autres, des remontées d'informations...
Non, mais tu sais très bien qu'il y a eu des suspicions d'espionnage technologique de la part de Huawei sur les équipements, sur les téléphones, etc. Ça n'a jamais été, cela dit, prouvé. Hein,
oui. Attendez, on ne va pas être naïf. Qui n'espionne pas dans ce monde? Vous me dites, est-ce que les Chinois espionnent? Je vais vous dire, ça n'a jamais été prouvé, je suis sûr que c'est vrai. Est-ce que les Américains espionnent?
Bien sûr aussi.
Oui, je suis sûr que c'est vrai. Est-ce que les Français espionnent? Mais bien sûr, heureusement. Et je l'espère que nous espionnons. Sinon, on est vraiment bêtes et naïfs. Donc, oui, les pays espionnent. Oui, les gens s'espionnent. Ça, c'est une nouveauté. Alors, est-ce que c'est bien? Non. Est-ce qu'il faut se battre pour pas qu'ils nous espionnent? Bien sûr. Mais honnêtement, je pense que la législation et le régulateur en Europe fait tout pour obliger tout ce qui est importé dans ce pays et en Europe pour être pour respecter la privacy, enfin, ou la vie privée des gens. Et je pense qu'il faut quand même remercier et mettre en avant tout le travail qui est fait par la Commission européenne, parce qu'on leur tape beaucoup dessus. Je trouve qu'ils font un travail remarquable, et je trouve qu'il faut être raisonnable en disant que nous sommes probablement dans le monde la zone géographique la plus protégée au sujet des data, et il faut en remercier le régulateur.
Ouais. Après, un dernier élément qui est... moi, le seul truc qui m'embête, je suis assez aigné sur le fait que la démarche aurait dû venir du marché. Je veux dire, les entreprises chinoises, c'est depuis 2010 qu'on voit émerger énormément d'entreprises chinoises. 2010-2015, ils sont lancés notamment dans l'électrique avec des pure players dessus, etc. Après, moi, ce qui m'embête, c'est que l'Europe a quand même ce côté un peu... Et l'Europe, pas au sens institutionnel, hein, nous tous. Un peu ce côté ravi de la crèche, de à chaque fois qu'il arrive un truc, une nouvelle innovation, une bonne idée pour la planète, un truc... On est très naïf quand même. J'ai l'impression de revivre le truc des panneaux solaires. Ah, on va subventionner les panneaux solaires. Hop, on a subventionné tous les constructeurs de panneaux solaires chinois parce qu'en fait, c'était les moins chers. Je sais pas quelle est la concertation. Je suis pas un spécialiste des institutions, entre les institutions, le privé, etc., au moment de lancer ce type de bonus, de subvention, de machin. Mais il y a ce côté un peu ravi de la crèche de, à chaque fois qu'on se positionne quelque part, t'as l'impression, sur une nouvelle technologie, un nouveau truc qu'on essaie de pousser, t'as l'impression que c'est tout le monde qui en profite, sauf les constructeurs européens, alors qu'on dit qu'on veut réindustrialiser. C'est quand même agaçant. Et je peux te dire qu'une boîte comme Zeekr, par exemple, moi, je connais des gens qui travaillent pour la communication de cette entreprise chinoise en Chine, qui ont déjà un plan de com dans les voitures sur, comment est-ce qu'en 2024, ils poncent le marché européen. Le plan de com, il est nickel, il est prêt, il a commencé il y a 2 mois. Je veux dire, eux, ils le savent très bien dans quelle situation nous, on se met économiquement. Ils savent sur quoi on va subventionner, ils sont prêts.
Alors après, je ne sais pas si tu as vu, Fred.
On a un passif aussi pour les voitures. On est quand même toute notre industrie derrière, si tu veux, le passage, la prise de risque.
Bien sûr. Comme tous ces acteurs historiques de l'automobile qui ont du mal à se transformer.
Les usines en grève, tu vois, c'est toutes les usines de voitures, puis derrière, c'est toute l'industrie.
Mais maintenant, on a quand même un paquet d'avantages, parce que là, on est un petit peu négatif. Maintenant, il faut regarder aussi les aspects positifs. D'abord, on a des marques. Et honnêtement, les gens, enfin les clients, que ce soit au Japon, que ce soit à Taïwan, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis.
Peugeot, troisième marque préférée, je crois.
Adore acheter les marques européennes. Oui. Ça montre un statut. Quand on s'achète une Peugeot, quand on s'achète une BMW, quand on s'achète une Ferrari, ça montre un statut dans le monde entier. Et ça, il faut
Mais est-ce que c'est pas l'ancien monde, ça, finalement?
Non, c'est pas l'ancien monde.
Tu crois pas?
Non, c'est pas l'ancien monde, parce que aujourd'hui, tout ça, quand on est dans la commodité, on achète des marques. Quand on est dans la commodité, on achète des polos, on achète des t-shirts qui ont des marques, on achète des sacs à main, on achète des chaussures qui ont des marques.
Enfin, il y a plein de milliardaires qui n'ont plus acheté de BMW, qui à la place se sont offert une Tesla, tu vois.
Mais parce que c'est une marque.
Oui, mais parce que
c'est une marque.
Bien sûr, mais qui au départ n'était pas aussi haut de gamme que d'autres marques de véhicules, premium. C'est ça que je veux dire.
Que les marques changent, que en effet, il y a des marques qui montent et des marques qui descendent. C'est la vie des marques. Mais il faut quand même reconnaître, et je trouve c'est extrêmement positif, que la notion de marque européenne, ça a toujours du poids. Quand on achète un sac Chanel, on achète un sac Chanel. Et un sac, c'est un sac. Et croyez-moi, les Chinois savent fabriquer des sacs. Sauf qu'un Chanel, c'est plusieurs milliers d'euros. Un sac chinois, quand ça arrive à plusieurs centaines, c'est déjà
exceptionnel. Oui, mais là, tu compares le luxe avec l'industrie automobile. Est-ce que tu penses que beaucoup de Chinois vont acheter des véhicules français ou européens?
Les Chinois achètent beaucoup de
Mercedes. Ils ont tellement de choix aujourd'hui.
On parle de haut de gamme. Il ne faut pas confondre le haut de gamme et le reste du marché. Après, la fidélité des Européens est vraie. C'est-à-dire que quand tu regardes les stats, tu as 25% à peu près des. Ce que disait. Je parlais de l'interview de Demeo tout à l'heure, mais il disait on a été disrupté dans les années 60-70 par les Américains. Enfin, ils ont débarqué. Les Coréens ont débarqué dans les années 2000, les Japonais ont débarqué dans les années 80-90. Hors marque européenne, c'est toujours 25% du marché. 75% du marché des bagnoles en Europe, c'est des marques européennes. Donc c'est vrai qu'il y a une forme de fidélité pour l'instant. La question, c'est combien de temps ça va venir? Les chiffres prouvent aussi que c'est quand même très générationnel. C'est-à-dire que, tu vois, moi, mon grand-père qui a toujours acheté Citroën parce que sa première voiture, c'était une Citroën. Mon autre grand-père, c'était Peugeot et ça aurait jamais bougé, c'était Peugeot. Je sais pas si les générations actuelles auront le même attachement. Non. Mais à date, en tout cas, c'est vrai que c'est un chiffre qui est parlant, c'est que en Europe, t'achètes européen. pour l'instant.
Non, mais ce qui va changer, c'est la façon dont on va vendre les voitures, c'est le service qu'on va vendre autour.
Absolument.
C'est de dire, tiens, bah, je...
Où est la valeur?
Ouais, où est-ce que je vais prendre une Renault? Non, moi, je veux une voiture qui m'amène de Paris à Lyon le week-end prochain. Et à Lyon, je voudrais aller dans la campagne à 30 km avec une autre voiture, parce que je vais rester deux jours à Lyon, puis je voudrais une voiture plus grande, parce que je récupère mes enfants qui arrivent par le train.
Oui, tu vas dire que tu veux dire par là qu'on achètera une espèce d'un ensemble mobilité, de services de mobilité. Mobilité, c'est voilà. Ça
enfin, entre autres, hein, il y aura des gens qui on aura toujours, certains auront toujours leur voiture parce qu'ils en auront besoin, parce que pour X raisons, ils auront besoin d'avoir leur propre voiture, mais c'est aussi la façon dont on va un peu... Mais même des voitures achetées, ça va être du leasing et l'assurance dessus, enfin on va peut-être plus acheter la voiture. Et puis il y a une autre chose dont on parle pas beaucoup, mais c'est tout ce qui est le marché d'occasion. On sait que les gens aujourd'hui, t'achètes une Tesla, marché d'occasion... T'es pas complètement sûr, hein. T'achètes même une voiture électrique, une Zoé, suivez mon regard. Bah, tu sais que le marché d'occasion, oui, si, si, il y a quand même Renault derrière, il y a du monde derrière. Aujourd'hui, il y a ça aussi, hein, chez Tesla. On arrive à la période où, bah, acheter une Tesla d'occasion, oui, mais est-ce que le circuit est bien fait? Toute
Oui, et puis c'est surtout
le climat. Et les occasions, Peugeot, Renault, voiture, machin, tout ça.
Mais ce que tu dis, c'est vraiment la deuxième chose qui est essentielle. Il y a la marque, mais il y a le marché d'occasion. Parce que si on achète une voiture 100, hein, ou on va dire 30 000 euros, okay, et qu'on la revend après 5 ans, 20 000 euros, et qu'on l'achète en leasing, le coût du leasing va être faible, alors que si on achète une voiture 20 000 euros et qu'on la revend 5 000 euros, le coût du leasing va être fort. Et quand on sait qu'aujourd'hui, les consommateurs achètent de plus en plus de voitures en leasing, le problème n'est pas le prix de la voiture, c'est l'écart de prix entre la voiture neuve et la voiture d'occasion.
Qui valide ton loyer.
Et on voit, je vais prendre un exemple, parce que tout le monde c'est pas mon cas, mais tout le monde ne roule pas en Ferrari, et moi non plus. Mais ce que je veux dire, c'est quand on achète une Ferrari et qu'on la revend plus chère, on a gagné de l'argent. Quand on achète une voiture et qu'on la revend presque pas, on a perdu beaucoup d'argent. Et c'est ça, cette notion de leasing. Et bien sûr, quand on a une marque, eh bien, la marque baisse moins. Et donc, quelque part, le coût de la voiture est moindre. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut faire attention, parce qu'on est un peu dans le drame. Parce qu'en effet... quand ça devient une commodité, la valeur change, etc. Mais on a un certain nombre d'atouts, et je suis pas... c'est pas dramatique. Moi, je me souviens avoir vu les voitures japonaises et coréennes arriver, et puis elles sont là. Bon, donc, il y a des voitures chinoises qui vont arriver. Normal, c'est le plus gros marché au monde. 25 millions de voitures sont vendues par an en Chine. C'est l'équivalent du marché européen plus du marché américain. Donc, c'est pas anormal qu'il ressorte un ou deux constructeurs. C'est la vie.
Bon, bah écoutez, on a fait 25 minutes sur l'automobile électrique, mais alors les doigts dans le nez, parce qu'il y avait beaucoup de choses à raconter et on aurait pu continuer encore. Très intéressant, mais
ils vous roulent en Ferrari.
J'aimerais bien.
Vous vous dites, ils n'ont pas parlé d'IA. Non, mais rassurez-vous, hein, l'intelligence artificielle arrive juste après l'info, écho, parce qu'on va évoquer ce super ordinateur à près de 100 milliards de dollars qui est porté par OpenAI et Microsoft. Ce sera l'un des sujets qu'on va débriefer ensemble avec Yves, Clément et Fred, juste après l'info qui arrive. À tout de suite.